Hommage à Zelda.
Link, réveille-toi!
Hein? Bordel, mais quoi encore?
La princesse Zelda a été enlevée par les femmes Ganondorf, tout le royaume d'Hyrule est sous le choc!
Ganondorf a enlevé Zelda, hein? Et combien ce terroriste réclame en rançon?
$1 million et un sauf-conduit par hélicoptère pour le royaume de Termina.
Il est gourmand, ce salaud!
Alors, Link, es-tu prêt à accepter la mission?
Ça dépend. Combien tu avances, petite fée?
$1000 plus les frais.
Ajoute une semaine sur la plage et j'en suis.
Top là!
Où se trouve mon épée?
Mettez de côté cet argument vieil, Link. Le roi vous offre plutôt la fine pointe de l'armement. Un M16 automatique équipé d'un lance-grenade.
Ouais! À nous deux, Ganondorf!
Te réveille en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer. Toutes les semaines depuis 15 ans.
I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. The first time I caught you out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle.
À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes, et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Puissance Maximale, votre magazine sur le monde ludique. Aujourd'hui, lundi 15 décembre 2008, tout juste après 17h, Vincent Anglo au micro, et je suis en compagnie, comme à l'habitude, de François Gécouillard.
Salut Vincent.
Salut François, également Alexandre Bélanger qui est avec nous.
Hey ho!
Bonjour messieurs et bonjour chers auditeurs. Tout simplement, un petit tour de table comme à l'habitude, messieurs, pour voir de quoi on va parler aujourd'hui. Alexandre, de ton côté.
Aujourd'hui, j'ai l'honneur et la bonne heure de présenter la musique de Yasunori Mitsuda.
Qu'on connaît très bien par le nom de...
Oh non, on connaît par son prénom et son nom de famille, tout le monde sait c'est qui, ouais.
Tout à fait, je sens un blanc partout autour, à part dans ton cerveau, on voit que ça bouge beaucoup.
Mais non, plus de détails lorsque je vais commencer.
Excellent, mais c'est tout simplement ce qu'on fait, c'est un tour de table, t'as tout à fait raison. François, de ton côté?
On va faire la chronique, évidemment, les babelles pour Noël.
Les babelles
de Noël. Il y a une fête qui s'appelle Noël qui s'en vient bientôt.
Et oui.
Et sinon, si on a le temps, on va faire une petite revue de presse.
Excellent, et également, on aura une entrevue dans quelques minutes avec Miss Harvey, une joueuse de jeux vidéo professionnelle. On a une entrevue téléphonique avec elle dans quelques instants.
Et plus que ça, c'est la championne mondiale de Counter-Strike.
Et elle est excellente et on va pouvoir justement discuter de tout ça avec elle. C'est une fille de Québec en plus.
Oui.
Et bon, voyage un peu à travers le monde, un peu partout, depuis maintenant quelques années. Ce qui est, en tout cas, ça sera sûrement intéressant comme entrevue. Ouais. Alors, il y aura aussi sûrement Michel Bédard qui va venir se joindre à nous durant l'émission. On va commencer tout de suite avec toi, Alexandre, avec ta chronique et monsieur dont j'ai oublié le nom.
Yasunori Mitsuda est un compositeur de musique et de jeux vidéo qui a commencé sa carrière comme ingénieur de son chez Square Enix. Il était employé, simplement un ingénieur, mais lui de formation c'était un compositeur, c'était quelqu'un avec de grandes idées, quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, et aux environs de 93-94, il a donné un ultimatum à ses patrons en disant « Là, donnez-moi de la composition ou je vous quitte. » Il était très jeune et on lui a donné un projet. Il s'agissait de Chrono Trigger.
Mais là, on s'entend, c'était un ingénieur, là, donc c'était pas un artiste. Là.
C'était un ingénieur de son, il avait été employé, on a tout besoin de travailler, donc il a été employé comme ingénieur de son, mais lui, c'était un compositeur. Il était sous la gouverne de Nobuo Uematsu, le compositeur de Final Fantasy.
Oui.
Et donc c'était un employé, mais il était un peu tanné de travailler comme employé, et il a donné cet ultimatum-là, et on lui a donné comme premier mandat la musique de Chrono Trigger.
Chrono Trigger, c'est quand même pas rien, hein? C'est un gros jeu d'aventure, un gros jeu de roleplay. Hein,
si on suit l'actualité du Nintendo DS, on saura que Chrono Trigger vient de sortir un remake. Là, bon, il a été refait, mais ils ont pas refait grand-chose, là, mais le jeu vient de ressortir. C'est un jeu culte, c'est un jeu important dans l'histoire des jeux vidéo. Ouais. Je pense que c'est un incontournable. Personnellement, c'est dans les meilleurs que j'ai jamais vus. C'était un peu composé d'une Dream Team, c'est-à-dire des vedettes un peu de plusieurs milieux. C'est-à-dire, il y avait Square, la compagnie de jeux vidéo. Il y avait aussi Akira Toriyama, le dessinateur de Dragon Ball, super manga, dessin animé et bande dessinée, surtout, qui était illustré par Akira Toriyama et qui a illustré aussi Chrono Trigger. Et Chrono Trigger reste là une œuvre importante au niveau musical. Et comme j'ai déjà dit souvent à travers d'autres chroniques du passé, dans la musique de jeux vidéo, c'est souvent difficile de tamponner un style en particulier. Et surtout dans cet exemple-là, Yasunori Mitsuda, lui, va vraiment chercher des styles. Là, ici, j'ai des exemples, des sons des Caraïbes, ou avec un mélange de saveurs de l'Est asiatique, tout ça dans une même pièce.
Ah oui?
J'entends pas bien la musique en arrière, mais...
Oui, elle est pas forte.
Elle est pas forte, hein. Là, on est vraiment dans l'ambiance. Il a été connu pour Chrono Trigger, mais il a aussi fait les trames sonores de Chrono Cross, qui est la suite indirecte sur le PlayStation 1.
Ah, je connais pas. Chrono Cross.
Chrono Cross, oui. Qui est une espèce de jeu réminiscent du premier. Parce que, bon, Chrono Trigger, c'était un chef-d'œuvre, et Chrono Cross, c'était un peu... aussi un chef-d'œuvre, mais un peu moins là, bouleversant qu'aura été Chrono Trigger.
Mais souvent, dans les suites ou dans les séquences, on s'attend toujours à ce que ça batte ce que le premier a fait. On est souvent déçu, même si le jeu est quand même bien fait, on est souvent déçu des deuxièmes versions.
Ouais, mais on pourrait pas parler vraiment de déception dans ce cas-là, parce que quand même, je sais pas si tu connais le jeu,
oui. Gopin,
vraiment, c'est quand même un très 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 bon jeu, là, Chrono Cross, dans la pléiade de RPG qui ont sorti au PlayStation 1 à l'époque. C'était un des bons jeux. Il y a aussi Xenogears. Je sais pas si vous êtes au parfum de ça. C'est quoi ce jeu-là?
Ben, c'est un nom qui me dit quelque chose, mais...
Qui mélange un peu les techniques de jeux de combat à la Street Fighter avec le RPG et les mécanoïdes japonais, là, les avions à la Macross et Gundam et tout ça. Bon, là, on est vraiment dans la culture japonaise. Bon, il a fait plusieurs arrangements aussi. Front Mission, qui est aussi un jeu de grosses machines robotiques japonaises qui s'affrontent en tactique, là, en mode tactique. Bon, il a fait tout ça. Il continue sa carrière. Vers 98, il est devenu un pigiste, c'est-à-dire autonome. Et bon, depuis ce temps-là, il est employé un peu partout dans différents projets. Là, je peux pas vraiment nommer. Il y a World Destruction, peut-être le dernier projet sur lequel il a travaillé, un RPG vraiment dernier jour. World Destruction, dans lequel on est une équipe de héros qui tente de créer la fin du monde.
Oh! C'est assez peu commun, c'est quand même comme style de jeu.
Et juste pour la prémisse, j'ai vraiment hâte de voir c'est quoi. Parce que c'est mon rêve, bien sûr.
Ben oui, de détruire le monde.
Ben oui, et de François aussi, je le vois dans
ben
ses
oui,
yeux.
Ben oui, certain. Et il a les désirs de la puissance maximale, hein, entre autres.
C'est ça.
C'est tranquillement, ça s'en vient. De détruire le monde.
C'est ça, exactement. Ben, donc, dans tous ces jeux-là, on a un mélange. On peut pas vraiment parler de musique baroque, romantique, de musique classique, comme il y a souvent... dans beaucoup d'autres jeux vidéo, dont j'en ai parlé souvent aussi dans d'autres chroniques. Il y a beaucoup de musique romantique baroque, mais lui, là, on est en dehors de ça, on est vraiment dans le contemporain, il y a un mélange de tout ça. Beaucoup d'influence du celtique, beaucoup d'influence du cinéma. Beaucoup d'influence du cinéma. Bon, il parle de certains compositeurs classiques, c'est sûr qu'il parle de Bach et de Tchaïkovski, qui sont des grands noms dans la musique classique.
C'est ses influences.
Oui, mais dans le style de musique que ça donne, là, on est loin de ça. On n'est pas comme dans Castlevania.
Absolument.
Hein. Il y avait vraiment des gros baroques. Là, on a vraiment des instruments de partout. Et ça, c'est récurrent dans toutes ces trames sonores. Et lui, il vise vraiment à obtenir des trames sonores qui s'écoutent du début à la fin, qui s'écoute là, même si on n'est pas en train de jouer.
Ok, donc on peut acheter à la rigueur la soundtrack et l'écouter là.
Mais moi, c'est sûr, j'ai joué, donc j'en ai acheté une. J'ai acheté la trame sonore de Chrono Trigger. C'est d'ailleurs le seul disque original que j'ai une importation à haut prix. Et acheté dans une boutique asiatique obscure de Montréal. Et oui. Et bon, ça s'écoute très bien tout seul, mais je sais pas si j'ai le biais subjectif là, parce que j'ai des émotions rattachées au jeu.
Ah, ça c'est vrai.
Des bons vieux souvenirs. C'est certain que ça vient te toucher.
Ouais. Tu sais quoi, Alexandre Bélanger, j'ai une révélation à faire. Ce jeu-là, je l'ai passé deux fois. Je me suis rendu au boss de la fin et je l'ai jamais buté. J'ai jamais réussi à le buter.
C'est déjà abandonné au boss de la fin. Il y a 14 moyens de le buter dans l'histoire en faisant 14 fois là, le jeu dans des scénarios différents.
Ah, et c'est pas linéaire.
Non, pas du tout. C'est un des premiers RPG qui donnait un peu cette ouverture-là, surtout en fin de jeu. Et il y a différentes façons de battre. On peut même le battre au milieu du jeu, le boss de la fin.
Ouais.
Mais t'es à peu près sûr de te faire planter. Mais bon, mais tu peux t'essayer au milieu du jeu. Mais en général, bon, t'attends la fin, t'as plus d'expérience.
Faut garder le suspense.
Mais si tu veux rejouer, ben, il y a toujours Nintendo DS qui est la version ultime et la meilleure du jeu qui aura sorti.
Ah ouais?
Oui. Oui.
Pourquoi est-ce qu'il est meilleur que la version, je me souviens même plus sur quelle console je l'ai joué.
Ah, c'est le Super Nintendo. C'est un des jalons du Super Nintendo. Ce qui est intéressant du jeu sur le DS, c'est qu'il y a deux écrans sur la console et on peut séparer un peu tout ce qui est menu et tout ce qui est gestion. Et les graphiques. Et donc, les graphiques sont vraiment mieux mis en évidence. Et les graphiques étaient très beaux pour l'époque. Et je pense que ça tient encore le coup. Question 2D aujourd'hui, là. Ça fait la job, Vincent.
Puis, côté du DS, est-ce que tu l'as essayé également?
Oh, t'en parles? Absolument.
Donc, ils ont fait une belle adaptation avec le stick. Puis tout ça, on peut jouer. C'est vraiment intéressant.
On peut jouer avec les mains, avec l'écran, le touchscreen.
Oui.
Je sais pas, en français, on dit l'écran...
L'écran tactile.
L'écran tactile, merci. Ouais, on peut jouer avec l'écran tactile, on peut jouer avec les crayons, on peut jouer comme sur le Super NES à l'époque. Donc, et là, on a glissé sur Chrono Trigger, mais c'est un grand sujet.
Ça vaut la peine d'en parler, parce que je pense que ça va même intéresser les gens qui ne connaissaient pas, aller faire un peu de recherche, puis peut-être même aller le chercher, comme tu disais, sur le DS, ou peut-être sur un émulateur, mais bon, on sait que c'est pas... C'est pas correct.
Ouais, c'est pas approuvé, mais c'est disponible.
Eh oui, il paraît-il.
Ça a été d'ailleurs une grande révélation, la découverte de l'émulation dans mon existence. Et même, ça m'a peut-être conduit à écouter la musique de jeux vidéo.
Un petit peu plus, mais oui, c'est vrai.
C'est tout un peu les mêmes scènes, les hackers, les pirateurs, les programmeurs. Et je pense que ça s'en joue.
Eh oui. Bien, merci beaucoup, Alexandre, d'être passé.
Ben, ça marche. Donc, écoutez, Yasunori Mitsuda, j'ai pas tout dit. Il a fait des albums seuls, des albums d'arrangement, d'après ses jeux. Mais bon, c'est ce qui boucle la boucle. Il y a beaucoup de choses à dire en cette matière. Donc, à la prochaine. Et, c'est ça. C'était Yasunori Mitsuda à puissance maximale.
Ouais, Alexandre, veux-tu présenter ta pièce?
Oui, on va écouter une musique de boss. Tu sais, dans les RPG, les musiques de combat contre les monstres, les plus gros monstres, les boss, les patrons. Ce sont souvent les musiques les plus enlevantes et les plus intéressantes. Donc, on va écouter la deuxième musique de combat contre les boss dans Chrono Trigger. Donc, attention, sonorité Super NES.
Bonjour, je suis Louis-Philippe et vous écoutez Puissance Maximale.
Et toujours sur les ondes de CKIA, nous allons aller par la magie du téléphone à Montréal rencontrer Miss Harvey, qui est Stéphanie Harvey, une fille de Québec, une joueuse professionnelle et championne de Counter-Strike. Alors, bonne fin d'après-midi, Madame Harvey.
Salut, salut, ça va bien?
Très bien, merci vous.
Oui, ça va très, très bien.
Excellent. Madame Harvey, tout simplement, au départ, une fille de Québec, une joueuse professionnelle, peut-être juste pour les auditeurs, vous présenter en général qui vous êtes, ce que vous faites à part ça dans la vie. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir joueuse professionnelle?
Moi, d'abord, présentement, je suis en maîtrise en design de jeux, donc ça a un peu rapport avec les jeux vidéo, puis j'ai fait aussi un bac en architecture, donc je suis encore étudiante. À part de ça, j'ai 22 ans, j'ai déménagé à Montréal pour faire ma maîtrise. J'ai rentré dans les jeux vidéo à l'âge d'environ 16 ans, intensif, pour devenir un peu plus professionnel, un peu plus compétitif, simplement parce que il y avait un garçon qui était de mon goût à mon école, puis c'était son seul centre d'intérêt, puis j'ai voulu avoir un même centre d'intérêt que lui, donc j'ai embarqué là-dedans tout simplement à cause de ça, puis finalement c'est devenu une passion à moi aussi, puis je l'ai développé jusqu'à en devenir professionnel.
Ben, et bon an, mal an, t'es devenue la championne mondiale de Counter-Strike, 1.6, ce n'est pas rien.
Oui, en 2007, c'est ça.
Et c'est ça, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça remonte à ce temps-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an?
C'est ça, comme je vous disais, j'ai fait un bac en architecture, puis ma dernière année, j'ai décidé d'aller la faire à l'étranger, donc je suis allée vivre en France pour finir mon bac. À ce moment-là, je pensais que ma carrière de jeux vidéo était terminée, parce que j'ai décidé de quitter la compétition. J'ai fait 6 mois de voyage intensif là-bas, puis à un moment donné, j'ai juste décidé de recommencer à jouer, puis j'ai joint une équipe française, si on peut dire. Donc, j'ai pris le drapeau français, puis j'ai été dans l'équipe nationale française pour la Coupe du Monde de l'année dernière. Donc, on a été à la Coupe du Monde ensemble, puis finalement, on a terminé deuxième derrière mon équipe de l'année 2007, dans le fond, que j'avais gagné la Coupe du Monde. Donc, j'ai fait deuxième cette année avec les Françaises.
Toujours en Counter-Strike.
Exactement, toujours à Counter-Strike 1.6.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres spécialisations? Est-ce que d'autres jeux qui vous intéressent, à part justement, bien sûr, j'imagine que oui, Counter-Strike, ce n'est pas la fin du monde, malgré que les joueurs de Counter-Strike sont quand même des gens qui adorent le jeu et qui continuent à jouer, mais est-ce qu'il y a quand même d'autres champs d'intérêt au niveau du jeu vidéo?
Bien sûr, bien, surtout depuis que je suis en game design, il faut que j'ouvre mes yeux à tous les styles de jeu. Malheureusement, j'ai juste le temps d'être compétitive à un seul jeu parce que ça m'en demande énormément de temps de pratique et avec mon équipe, etc. Mais sinon, à niveau passion, c'est sûr, j'ai tous les consoles, j'ai des tonnes de jeux sur PC aussi, puis j'essaie tout le temps d'ouvrir mes yeux à toutes sortes de jeux. Présentement, en plus, c'est Noël, le semestre est fou niveau sortie jeu. Je sais plus où donner de la tête. Mirror's Edge, Left 4 Dead, tous ces jeux-là, pour moi, c'est des jeux que j'adore, puis j'ai pas le temps de jouer avec la fin de ma session, puis... Mais bon, oui, j'essaie de jouer un peu à tout, oui.
Mais c'est ça, tu as parlé brièvement de Left 4 Dead. C'est surtout des jeux de tir à la première personne.
Et c'est sûr que sur l'ordinateur, c'est ma spécialité. Puis pour moi, peu importe le jeu, dès que c'est un FPS, tir à la première personne, c'est une de mes facilités. C'est ce que j'aime le plus. Pour moi, c'est carrément... D'abord, vu que je suis dans la Counter-Strike et FPS, ça reste quand même le même principe. Ça reste un FPS, puis moi, mes réflexes sont là... La façon que je me déplace, c'est toujours un peu le même. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus facile. Après ça, sinon, maintenant, j'ai découvert la Xbox 360 ces temps-ci, que je joue beaucoup et que j'adore. Puis, j'ai toujours mes petites consoles portatives dans les voyages, etc. C'est super pratique.
Excellent. Juste pour revenir au niveau du jeu avec l'équipe française, est-ce que on comprend un peu que c'est arrivé par défaut? Oui, il y avait l'expérience de l'équipe canadienne au départ, mais est-ce qu'on est bien accueilli comme Québécoise, comme Canadienne dans l'équipe française?
J'ai été extrêmement bien accueillie, tout simplement parce que j'étais championne du monde à ce moment-là, en titre. Donc, j'ai été un an. Là-bas, je suis un autre monde, je suis une Américaine dans un sens pour eux. J'arrive là-bas, j'ai un petit peu de style de jeu. Je les surprenais, puis eux me surprenaient. Donc, ça a été une toute nouvelle dynamique dans l'équipe. On a appris à jouer deux styles de jeu complètement différents. Pour moi, maintenant, je suis une joueuse beaucoup plus complète depuis que j'ai pu mixer le style européen avec le style nord-américain.
C'est quoi qui différencie justement le style européen du style américain?
Ben, c'est totalement différent parce que je pense qu'en Amérique, tout simplement, on se base beaucoup plus au niveau des habiletés personnelles du joueur. Par exemple, on appelle ça du skill dans le monde du jeu. Donc, on est beaucoup plus du skill, des réflexes, tout ce qui est plus individuel, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus technique, niveau stratégie, niveau esprit d'équipe, niveau adaptation du style de jeu de l'autre équipe. Toutes ces petits détails-là qui fait qu'en Amérique, on a beaucoup moins accès là-dessus, puis c'est beaucoup plus sur le style personnel. Moi, j'ai appris à leur montrer le style personnel, puis à savoir se débrouiller en situation de stress, d'être seul, etc. Alors qu'eux m'ont appris à s'adapter contre une autre équipe.
Et c'est quoi, tu penses, le meilleur style? Est-ce que c'est le style américain ou le style européen?
Mon style préféré?
Ouais, ou le meilleur?
Je pense que c'est un mix des deux, carrément. Parce que je pense que c'est bien de s'adapter à n'importe quel style d'équipe, parce qu'il n'y a jamais une équipe qui joue de la même façon. Puis en même temps, je pense que le niveau individuel doit être vraiment élevé pour pouvoir former une équipe très forte.
Hey, bonjour, j'ai une question. Moi, je suis dans le studio à côté, là. J'ai pas continué encore, là. Est-ce qu'il y a un style asiatique de jeu?
Oui. Justement, en 2007, j'avais joué les Chinoises en finale. À OSTS, le style asiatique est beaucoup plus différent qu'à des RTS, par exemple. Moi, ce que je connais, c'est le style de FPS. Le style de FPS, c'est vraiment que du skill individuel, mais pur. Donc, ça communique pas beaucoup, ça rentre dans le tas, puis t'as pas le temps de les voir, puis ça te tue. C'est vraiment ça, le style asiatique.
Kamikaze.
Ouais.
Pas trop de style, finalement.
Ouais. Ben, ouais.
Ouh, le rouleau compresseur rouge du chinois.
J'avais une autre question, je vais en profiter. T'as.
Ben vas-y.
Est-ce que c'est un rêve que tu as accompli, ça? Ou est-ce que tu l'as rêvé ou c'est venu malgré toi là, que de devenir championne et tout, que de pratiquer et tout?
Je voulais juste comprendre le jeu, peut-être les premiers mois, mais quand j'ai commencé à voir les compétitions internationales, alors que moi j'étais ma petite Québécoise dans mon coin, puis j'ai vu qu'il n'y avait jamais eu une équipe canadienne qui avait jamais été à la Coupe du Monde, surtout féminin, puis en plus les Québécois masculins avaient gagné une compétition assez importante qui s'appelait WCG en 2001. Donc, pour moi, c'était... j'avais fait « wow, c'est accessible à tous. C'est juste qu'il faut se donner les moyens. » Moi, je me suis bottée le derrière en 2005. J'ai commencé à vraiment être compétitive. Je me suis bottée le derrière. J'ai trouvé mes commanditaires. J'ai formé mon équipe. Puis j'ai managé tout ça pendant une année complète. Puis j'ai finalement réussi à la Coupe du Monde. Puis ça a été mon but ultime. Après ça, ça a été de la gagner. Puis à chaque fois, j'augmente mon but. Là, c'est plus juste de gagner la Coupe du Monde, c'est de gagner un tournoi international masculin avec mon équipe féminine, ce qui n'a jamais été fait à Counter-Strike 1.6. Donc ça, c'est ma prochaine étape.
Wow,
c'est quand même tout un objectif impressionnant. Mais dis-moi, Stéphanie Harvey, là, t'étudies à travers ça. Là, tu ne fais pas juste t'entraîner. Donc tu l'as dit tout à l'heure, tu fais dans le design de jeu, tu fais aussi en architecture. Dis-moi, où est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner? Puis finalement, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Est-ce que tu veux travailler en architecture ou est-ce que tu veux travailler dans l'industrie du gaming ou tu veux devenir une joueuse professionnelle?
Aller vers l'industrie du gaming, présentement, c'est vraiment là-dessus que j'ai essayé de tasser toute ma vie en me disant je peux pas faire ma passion et aussi mon travail. Je vais tout le temps être sur l'ordinateur. Mais finalement, c'est ma passion, donc je vais là-dedans. Puis où je trouve le temps? Simplement, tous les moments que vous passez peut-être à écouter la télé, à être assis, à relaxer, ben moi, je mange à ce moment-là entre deux devoirs, et puis après ça, je m'en vais pratiquer tout le reste de la soirée. Après ma pratique, je continue à faire des devoirs, je me couche un peu plus tard que tout le monde pour terminer mes travaux. Ça, je me lève un peu plus tôt que tout le monde pour en continuer. Je veux dire, les moments pour relaxer, j'en ai plus ou moins, c'est dans le jeu que je les passe. Puis, dès que j'ai pas de pratique puis que j'ai pas de travaux, c'est à ce moment-là que je fais tout le reste.
C'est bien, c'est quand même pas si différent que nous, parce que nous aussi, moi je passe mes soirées à Call of Duty 5 présentement. Mais en tout cas, ça c'est une autre affaire. Alors,
est-ce que je peux poser une autre question?
Ben, vas-y, oui, juste avant la fin de l'entrevue.
Je voudrais savoir s'il y a des moments difficiles, des moments où c'est difficile pour toi, là, où la morale est plus bas, puis un peu que savoir comment ça se passe, quand?
Il y a toujours des moments difficiles. Quand on fait des compétitions avant les Coupes du Monde, par exemple, puis ces compétitions, on les perd. Ou des fois aussi, on est 5 filles dans mon équipe, puis je peux dire que 5 filles, c'est pas évident à vivre ensemble. Près de 6 heures par jour avec ces filles-là. Sur Internet, c'est beaucoup plus facile de s'engueuler, de se disputer, d'avoir des conflits. On a 5 personnalités fortes, parce que pour se rendre où on est rendu, dans le gaming, il faut être déterminé, il faut avoir des personnalités qui sont assez prédominantes pour pouvoir réussir à travers d'un milieu de garçons, parce que le milieu compétitif, on peut pas se le cacher, c'est un milieu de garçons. C'est assez difficile. J'ai appris à gérer tout ça. C'est sûr que maintenant, je suis rendue une vétérante. Souvent, j'ai mon opinion un impact souvent un peu plus fort que les autres. Donc, c'est plus facile aussi pour moi maintenant. Quand j'étais plus jeune, je prenais mon trou, puis j'acceptais ce que les plus vieilles disaient à ce moment-là. Puis maintenant, c'est à mon tour. C'est des boucles dans le jeu vidéo. Les moments difficiles, on se concentre sur les personnes aussi qui nous aiment dans la vie, tout simplement. Moi, mes parents ont été là tout le temps dans toute ma carrière. J'ai eu la chance d'être super bien accompagnée par eux. Présentement, j'ai un copain aussi, puis il est toujours là pour moi, puis il m'écoute. Puis malgré le fait que je peux des fois les saouler, on dit à la française, les déranger avec les jeux vidéo, ils m'ont jamais, ça les a jamais dérangés, puis ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Donc moi, c'est tous les petits à côté qui font que je me reste motivée. C'est aussi les compétitions, gagner, c'est tellement en dedans, j'avais jamais ressenti ça. J'ai fait de la compétition de sport, la compétition de danse, et d'autres sortes de compétitions, puis j'avais jamais ressenti ce sentiment-là que quand j'ai gagné la Coupe du Monde de jeux vidéo, ça a été un moment incroyable pour moi, puis c'est pour ça que je continue à jouer, pour ces moments-là qui sont inoubliables.
Super, super. Et pour terminer, là, est-ce que vous avez, c'est quoi votre nom d'équipe?
Présentement, je viens tout juste de commencer à travailler avec une autre équipe, parce que je suis revenue au Canada. L'équipe, présentement, vous allez peut-être rire, elle s'appelle PMS, bien oui, comme...
PMS, oui.
Comme ce que vous pensez, mais ça veut dire Pandora's Mighty Soldier. Puis, en fait, c'est une équipe complètement féminine, c'est un peu une communauté américaine, puis c'est des filles professionnelles, surtout sur Xbox, Halo, qui ont gagné des tournois internationaux masculins sur Xbox, que nous, on a décidé de joindre pour des raisons financières, ça je peux pas le cacher, puis aussi pour des raisons de support financier. Donc, c'est rendu ma nouvelle équipe, puis elle est composée à moitié d'Américaines, moitié de Canadiennes.
Bien d'accord, bien merci beaucoup, Miss Harvey, pour cette entrevue. On a pris un peu de temps pour Puissance Maximale, et quand vous serez de passage à Québec, bien, venez nous visiter, et on pourra peut-être justement jouer à LO3, tout le monde ensemble, et faire un peu de compétition avec une championne.
Ouais, se faire tout bûcher, oui.
Si, ça me dérange pas, j'aime bien le jeu.
Excellent, bien merci beaucoup, et bonne chance pour 2009.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Ciao Stéphane Hervé, surtout que c'est possible que sa famille écoutait, donc on les salue.
Et oui.
Une jeune fille de Québec.
Qui est présentement à Montréal. Et on va passer en musique, François.
Donc on va l'écouter, une pièce de Musax, notre ami français Yannick, donc de Musax.info, Musax avec un ZDX.info.
Le premier volet de la série des Wipeout sort en 1995 sur la PlayStation. Ce jeu de course futuriste a été développé par la célèbre société de jeux vidéo Psygnosis, rachetée en 1993 par Sony Corporation. I'm sorry.
je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de CKIA, nous allons rejoindre dans notre studio frère à Essen en Allemagne, Michel. Non, Michel qui est juste ici à côté de moi. Alors, Michel, bonne fin d'après-midi.
Bonne fin d'après-midi à vous aussi, messieurs.
Alors, la chronique jeu de plateau.
Oui, est-ce qu'on a un thème? Non,
non, il n'y a pas de thème. Il y a une musique de fond, par contre.
Ah, OK, bon, c'est nouveau, merci. Alors, ben cette semaine, j'ai décidé de faire... c'est notre dernière émission avant le temps des fêtes. Donc, quoi de plus original que faire une...
rétrospective?
Non. Plutôt un petit spécial jeu du temps des fêtes en famille. Parce que, je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais en tout cas, moi, le temps des fêtes, c'est une belle occasion pour jouer à des jeux de société. Par contre, en famille. Donc...
avec grand-mère, avec ma tante.
Avec, c'est ça, papa, maman, frérot. C'est...
avec le mononcle Sou.
Exactement.
Des gens qui sont plutôt initiés plutôt que joueurs à l'année longue.
C'est ça, des non-initiés aux jeux qu'on aime bien jouer entre joueurs à l'année longue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sortir le petit jeu simple que ma tante va comprendre rapidement, puis qui va permettre d'avoir du fun... c'est ça, tout simplement, en simplicité. Donc, je me suis amusé à sortir une liste de jeux aussi qui se jouent au moins jusqu'à 6 joueurs, parce que ça arrive souvent qu'on ait plusieurs personnes. Donc, au lieu de se retirer 3 ou 4 personnes dans un coin puis jouer à Ghost Stories, c'est bien d'inclure le plus de gens possible. Alors, je me suis amusé à sortir cette liste-là, et puis j'ai répertorié 15 à 20 jeux dans ma collection, quasiment à ma grande surprise. Et je vais en décrire quelques-uns. Je vais commencer par ceux qui sont des valeurs sûres, en tout cas, tout le moins, selon mon expérience dans ma famille et dans la famille des autres.
Loup-garou de Tiercelieu?
Non, en fait...
C'est le 16e.
J'aurais cru...
Je me base peut-être un peu sur le genre de famille que j'ai, là, les parents, les tantes. J'imagine mal certaines personnes de ma famille... dans l'ambiance de loup-garou. Donc, c'est vraiment plus des petits jeux comme, par exemple, certains qui ressemblent à des jeux de cartes traditionnels. Comme, j'y vais avec le premier, qui s'appelle « Six qui prend ». C'est un jeu, c'est quasiment devenu maintenant un classique de Wolfgang Kramer. C'est un simple petit jeu qui contient des cartes numérotées de 1 à 104. Et puis, on fait tout simplement 4 rangées. Donc, on met 4 cartes initiales. Donc, les valeurs des cartes sont déterminées au hasard. Puis, chacun de notre tour, on a chacun 10 cartes dans nos mains. Et puis, chacun, en même temps, on sélectionne une carte. Puis, en même temps, on la dévoile tous. Et dans l'ordre croissant, on place les cartes dans les différentes rangées. Et puis, lorsqu'on est la 6e carte, donc de là, le 6 qui prend, lorsqu'on est la 6e carte à être posée dans une rangée, on ramasse la rangée au complet, et sur chaque carte se trouvent des petits symboles, des petites têtes de vache. Donc la personne qui remporte le plus de têtes de vache est la plus pénalisée, parce que c'est celle qui en a le moins à la fin de la partie, donc à la fin des 10 manches, qui va gagner. Donc lorsque quelqu'un atteint 66 points, ça met fin à la partie. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais c'est presque à tout coup, les gens redemandent. Un jeu gagnant, et normalement, les gens qui vont y jouer vont courir l'acheter dans les jours qui vont suivre. C'est d'ailleurs qui gagne, on a fait une version française qu'on peut trouver facilement pour une quinzaine de dollars en boutique. Un autre jeu qui connaît beaucoup de succès en famille, c'est Diamant. Donc, un jeu de Alan R. Moon et de Bruno Feduti pour 3 à 8 joueurs, 8 ans et plus. Ce jeu-là, c'est, vous incarnez un aventurier genre Indiana Jones. Puis l'objectif, c'est en 5 manches de récupérer le plus de diamants possible. Donc, le jeu est un principe de cartes sur lesquelles se trouvent des valeurs, je pense que c'est de... disons de 2 à 18 environ, là. C'est peut-être pas exact comme information, mais c'est à peu près ça. Et puis lorsqu'on retourne, on entre premièrement dans une caverne, et on doit à chaque fois, avant de tourner une carte, décider si on continue ou pas à avancer dans la caverne, au risque de perdre tout ce qu'on a accumulé dans cette caverne-là.
J'imagine qu'il y a des dangers dans la caverne.
Exactement. Il y a 5 types de dangers, genre un scorpion géant, des gaz... des éboulements, des choses comme ça. Et puis, lorsque deux cartes danger identiques apparaissent dans une même caverne, eh bien, tous les aventuriers qui étaient encore présents dans la caverne ne meurent pas, parce qu'on ne meurt pas dans ce jeu-là, mais perdent ce qu'ils avaient accumulé dans cette caverne-là.
Okay.
Donc, c'est un peu un jeu de gestion de risques. Donc, c'est est-ce que je continue ou est-ce que je sors et que je garde tout ce que j'ai accumulé, au risque, si je sors, que les autres qui sont moins, donc, se partagent de plus gros butins à moins de personnes, donc qu'on puisse continuer à s'accumuler encore beaucoup plus de diamants que si moi qui est sorti. Par contre, l'inverse, ça peut arriver si l'éboulement survient alors que moi j'ai osé sortir. Eh bien, je vais être le seul à avoir accumulé des diamants dans cette manche-là. Et on fait ça 5 fois, donc 5 cavernes différentes. Puis celui qui a accumulé le plus de diamants après, à la fin de la partie, l'emporte.
Et dis-moi, Michel, est-ce que tu as dans ta liste Rythme et Boulet? On a joué à ça, là, justement, à Montréal, à la Fiesta Ludique, là, moi et Vincent.
Bien sûr que j'ai ça dans ma liste.
Donc, un jeu qui fait beaucoup de bruit.
Oui. Justement, vous pouvez peut-être m'en parler plus que je peux vous en parler, parce que moi, je ne l'ai même pas essayé. Je connais le principe, mais je ne l'ai pas essayé.
Donc, ça, c'est vraiment un jeu, je pense, qui peut jouer dans la même équipe, là, sur la même table. On peut jouer à des enfants de 10 ans, je ne sais pas, Vincent.
J'avais joué avec un jeune, vraiment, je pense, de 8 à 10 ans.
C'est de 4 à 12 joueurs. Donc, c'est ça. Puis c'est un principe, soit le rythme de
We Will Rock You.
We Will Rock You, c'est ça.
Tout simplement, le jeu, c'est de faire le rythme, de taper sur la table avec les deux premiers sons du We Will Rock You et de frapper dans nos mains.
Démonstration.
Solo.
C'est très bien réussi, et une ambiance sonore c'est incroyable. Alors, tout simplement de faire ça, et on fait des gestes au lieu de taper dans les mains. À un moment donné, on fait des gestes, on envoie des gestes à quelqu'un qui a une carte correspondant à ce geste-là. Par exemple, un signe de zen ou des choses comme ça. Et la personne doit voir que tu lui envoies le signal, et elle doit répondre par un autre signe pour essayer de tromper une autre personne dans le cercle de joueurs.
Hey, ça a l'air compliqué, maintenant.
C'est pas si compliqué que ça quand on le voit ou quand on le joue.
C'est ça le problème qui arrive, c'est que ça crée un chaos complet.
La cacophonie.
Tout le monde se mêle.
Mais malgré que dans une ambiance de party à la maison, c'est quand même très bien.
Oui, avec une bière dans le nez, ça va être encore génial comme jeu.
Un peu plus mélangeant.
Donc, dans le fond, c'est d'envoyer la balle aux autres joueurs en espérant qu'ils se trompent, puis c'est dans ce temps-là qu'on peut gagner. Alors, j'ai le temps pour un autre jeu.
Il te reste un 2 minutes.
Bon, mais je vais y aller avec Picomino, un autre jeu qui fait aussi fureur, très simple. On est des oiseaux qui doivent, bien sûr, se nourrir de vers. Et puis, pour ramasser ces vers-là, mais c'est avec des dés. Donc, un jeu qui ressemble un petit peu, qui est basé un petit peu sur les principes du Yum. C'est-à-dire qu'on doit faire, on jette une poignée de dés et on doit récupérer des groupes de valeurs identiques, donc
des
dés qui ont la même valeur.
Des foules.
Il n'y a pas de suite, mais c'est plus, on faut toujours retirer au moins un dé du groupe de dés qu'on a joué ou plusieurs dés qui ont la même valeur. Et on fait ça jusqu'à temps qu'on sort, qu'on réussit constamment à sortir au moins une valeur qu'on n'a pas encore retirée de notre groupe de dés. Et puis, en plus de ça, sur chacun des dés, il y a un petit vert. Et il faut au moins avoir un groupe de dés avec des verts dessus, si on veut que notre total final soit valide. Et une fois qu'on a réussi ça, si on réussit, parce que ça arrive souvent qu'on va tenter de réussir à avoir ce satané vert-là, et puis on réussira pas. Donc, à ce moment-là, on pourra pas mettre la main sur une des tuiles au centre de la table, qui peuvent nous donner des points, c'est-à-dire sur chaque tuile, il y a des valeurs numériques qui vont jusqu'à 36, je crois, de 21 à 36. Puis sur chacune des tuiles, il y a soit 1, 2, 3 ou 4 verres qui sont les points qu'on va accumuler. Donc les points, c'est les verres qui sont sur les tuiles. Et les dés nous permettent d'aller chercher ces tuiles-là. Donc c'est de réussir à avoir le chiffre correspondant au chiffre sur une tuile qui est au centre de la table. Et si on réussit, on ramasse la tuile. Et on peut aussi, si la tuile n'est pas au centre, aller voler la tuile d'un autre joueur, donc qui aura déjà ramassé devant lui. Donc un petit peu se faire des couchins comme ça, se voler les tuiles ou prendre celle du centre. Lorsque toutes les tuiles ont été ramassées par les gens, la partie se termine et celui qui a accumulé le plus de verres dans sa collection devant lui l'emporte. C'est un jeu de Rana Nisia, c'est produit par Gigamic. pour 2 à 7 joueurs, 8 ans et plus, et une autre valeur sûre à aller acheter immédiatement pour le temps des fêtes.
D'accord. Bien, merci beaucoup, Michel. Ce qu'on fera, comme tu avais beaucoup de jeux, ce qu'on fera, c'est qu'on mettra la liste des noms sur le site Internet de Puissance Maximale.
Tout à fait d'accord.
Et les gens pourront aller voir la liste de jeux que tu nous proposais, et peut-être même t'envoyer un courriel si jamais il y a quelque chose, si on a des questions spécifiques à ces jeux-là.
Bien sûr, ça me fera plaisir.
On va passer au concours, François. Oh, le concours!
Alors, qu'est-ce qu'on a à faire tirer aujourd'hui, Vincent Landlois?
Aujourd'hui, nous avons à faire tirer le superbe jeu d'Activision, Kung Fu Panda, qui est fait pour votre ordinateur. Et c'est un jeu, vous devez avoir le programme Windows Vista ou XP, et un Pentium là, qui est quand même assez puissant, si vous voulez le faire rouler, parce que si jamais vous avez un bon vieil ordinateur du milieu des années 90, il se peut que votre ordinateur arrête complètement lorsque vous allez insérer le disque.
Et c'est un petit jeu de panda qui est un jeu de combat, finalement.
C'est un jeu de combat, c'est Kung Fu Panda, le film, là, puis il avait même été chroniqué par Sylvie Tapp, elle l'avait essayé. C'est la version, justement, que Sylvie Tapp a chroniqué, qu'on a. Donc, voilà. C'est une valeur sûre et une valeur, ça vaut vraiment très cher.
Et quel est le numéro que les gens peuvent appeler pour se appeler. Procurer gratuitement ce jeu?
Pour gagner ce jeu, 418-529-9026, 418-529 9026, on attend vos appels et on va passer en musique.
Oui, on va écouter une pièce bien poil, sélection Guillaume Forand, ça va être Blind Guardian. Vous êtes à puissance maximale.
Oh,
Qu'est-ce que je lui offrirais bien pour Noël cette année? Mes amis, mes magasins, mes patrons, mes magasins, mes Noël, mes sangs, mes grilles de poils, mes petits pots, mes règles, mes cadastres, mes cadastres, mes cadastres, mes petits tickets, mes morgues, mes petits dangers, mes belles
tangentes. Ne vous posez plus de questions.
Et oui, parce que c'est la chronique des bébelles pour Noël.
Vous l'avez entendu, attendu toute la semaine. Et voilà, l'événement de la semaine arrive, c'est la chronique, et oui. Et on va commencer tout de suite avec toi, François, qui a plein d'idées.
Allons-y avec un Electronic Drum King Drum Kit Shirt. C'est un T-shirt dans lequel on peut jouer du drum. Ça, je suis certain qu'Alexandre Bélanger, tu rêves de
ça. J'ai déjà vu ça, je l'aime. Mais c'est pas très efficace, mais ça peut être drôle.
Effectivement, c'est un peu poche. J'ai vu la vidéo, ça a l'air assez pathétique, mais bon. Donc, c'est un produit... qui c'est vraiment un drum qui est peinturé sur le t-shirt avec quelques piles, avec quatre piles AAA. Vous pluguez ça dans votre t-shirt et vous pouvez jouer de la batterie. C'est en 100% coton. Et moi, au début, je trouvais ça poche, mais je me suis dit, ah, mais quoi de mieux qu'à offrir à un sociopathe qui vit dans son sous-sol? C'est une méthode alternative pour se faire toucher par la gente féminine en ce temps des fêtes. Il pourrait venir c'est essayer de drummer sur votre corps.
Mais pas juste les sociopathes. C'est bon pour tout le monde.
Dis-moi, Michel, à ton tour.
Ouais, ben, vous connaissez quelqu'un qui possède le jeu Jamaica? J'en ai déjà parlé dans une chronique précédente.
Quel bon jeu.
Puis vous voulez le surprendre avec une petite surprise? Eh bien, sachez qu'à SN, il y avait des cartes bonus. Qui étaient disponibles, des cartes trésors qui ne sont pas dans le jeu de base. Et puis, la compagnie qui distribue ces cartes, qui distribue le jeu Jamaica au Québec, qui est ILO 307, a rendu disponibles ces cartes-là, ces cartes bonus-là, dans différentes boutiques à travers le Québec. Et dès mercredi 17 décembre, vous pourrez aller en chercher. C'est à Québec, à un endroit qui s'appelle Jacques Papeterie. À Charlebourg. Je ne connais pas ça, mais c'est là l'endroit, et dès mercredi 17 décembre, vous pourrez en trouver, et c'est gratuit, un par personne.
Oh, mais c'est super! De mon côté, bien, vous êtes un joueur de jeux vidéo, et vous adorez votre Xbox 360 parce qu'elle n'a pas encore pété, elle n'a pas encore fait le Ring of Death, vous êtes une personne chanceuse. Mais vous aimez vraiment Halo 3, eh bien, figurez-vous qu'en faisant une bonne recherche Internet, vous pouvez vous procurer le casque de Master Chief, qui est le personnage principal de Halo 3. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un casque comme ça?
On fait du vélo.
On se promène avec. On se promène avec sa décapotable avec le casque sur la tête. Mais c'est vraiment incroyable. Mais non, on ne met pas en bibelot sur notre armoire ou quoi que ce soit. Non,
c'est vraiment... On doit le porter.
On doit le porter. On va à la job avec. Et c'est directement un petit costume, déjà d'avance, pour le prochain Halloween.
Sinon, moi, ce que je vous propose... Une école d'entraînement pour poissons rouges. Alors ça, ce n'est pas une blague, c'est vraiment un kit d'équipement qui existe pour montrer des trucs à son poisson rouge. Donc, tu peux lui apprendre à jouer au football, à faire du limbo à votre poisson rouge, et tout ce qu'il le faut. Et tout le kit vient avec un DVD instructionnel.
Il n'y a pas le double salto arrière.
Peut-être.
Ici. Non, mais il paraît qu'il y en a une couple qui sont bons dans la nage sur le dos.
Donc, c'est très pratique. Je le conseille. Ça se trouve sur thinkgeek.com. Thinkgeek.com.
Tu veux bien de le mentionner parce que c'est vraiment un site Internet incroyable. Moi, c'est vraiment, j'ai fait des achats là et c'est incroyable.
Ah oui, t'as fait des achats?
Non, pas vraiment.
Donc, une école d'entraînement pour votre poisson rouge. Et c'est pratique quand notre seul ami dans la vie, c'est un poisson rouge. Incroyable. Michel Bédard.
Ouais, ben... un petit peu moins drôle peut-être, mais tout aussi intéressant, c'est le jeu Time's Up. Ben, quoi que le jeu est très amusant à jouer.
Oui.
C'est une valeur sûre que j'ai pas eu le temps de d'écrire tout à l'heure. Mais Time's Up, dans vos parties, là, si vous avez des gens que vous voulez mettre une ambiance, vous voulez rigoler, achetez ça immédiatement. C'est trois manches, c'est des imitations, c'est faire deviner des personnalités, mais d'une façon très originale.
Il y a beaucoup de mimes.
Il y a du mime dans la troisième manche. En tout cas, fort intéressant. Il faut que vous ayez ça. Même si ça a l'air de rien, je vous garantis bien du plaisir.
Et moi, je m'adresse encore une fois aux joueurs de jeux vidéo. Et oui, vous avez aimé notre thème de départ de l'émission qui était Zelda. Figurez-vous encore là qu'en faisant une excellente recherche Internet, vous pouvez vous procurer une magnifique ocarina à 12 trous. Il vous sera possible de jouer toutes sortes de chansons, bien sûr les chansons de Zelda et bien d'autres chansons. Mais
J'ai un petit commentaire. 12 trous, ça correspond à la totalité des tons disponibles dans la gamme. Donc, il y a 12 demi-tons dans la gamme. Donc, 12 demi-tons.
Non, c'est vraiment complet. Impressionnant. C'est quand même une ocarina qui coûte cher. C'est dans les 200-300 $. Si vous allez sur YouTube ou si vous allez chercher justement sur Internet, vous allez voir des vidéos de gens qui en jouent et c'est quand même assez impressionnant comme son. Justement, donc, c'est pour la raison justement qu'il y a 12 trous, oui.
Est-ce qu'il est intitulé l'Ocarina du temps?
C'est Ocarina comme dans Zelda, tout simplement. C'est pas vraiment Ocarina of Time, mais on sait très bien que c'est venu de là en partie.
D'ailleurs, l'Ocarina of Time, faut mentionner, c'est dans les livres Guinness des records comme étant le jeu qui s'est vendu le plus rapidement. Ocarina of Time, c'est le jeu de la série Zelda qui est le plus pogné en plus.
Et c'est un excellent jeu.
C'est un classique encore révolutionnaire, je pense.
Oui. Donc encore une suggestion de Bebel pour Noël. Je vous suggère Novembre Rouge, qui est un jeu de plateau. Donc ça se détaille à environ 35 $. C'est un jeu coopératif. Donc de 4 joueurs, on y a joué. Donc le but du jeu, c'est de sauver votre sous-marin qui est affecté par toute une gamme de problèmes techniques, des incendies, des fuites, et vous êtes 4 gnomes dans le sous-marin qui doivent tenter de survivre assez longtemps jusqu'à temps que l'aide arrive. Donc je vous conseille de jouer à ça avec votre grand-père vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, ça va lui rappeler de bons souvenirs.
Alors, ça peut même se jouer jusqu'à 8 joueurs.
Ah, ok.
Ouais. C'est ce qui met fin à notre chronique Les Bébelles de Noël, parce qu'on va bientôt quitter les ondes, c'est déjà la fin de notre émission. En passant, l'agenda de la semaine?
Oui, donc, évidemment, comme à tous les mardis, il y a des parties de Go au Café Aga à partir de 19 h. Sinon, à la librairie Donjon, il y a des parties de Magic le jeudi et vendredi. Le mercredi et samedi, c'est Warhammer Fantasy Battle, Warhammer 40 000. Et le dimanche, c'est des parties de Yu-Gi-Oh! Sinon, venez nous rejoindre après l'émission. À partir de 18 h, nous allons à l'Abraham Martin et on va jouer à des jeux de plateau. Mais attention, le restaurant va être fermé du 20 décembre jusqu'au 5 janvier.
Puis tu faisais pas une soirée de jeu chez toi en fin de semaine? Que tu nous as parlé de ça.
Pour tous les auditeurs aussi.
Ah, non, OK.
Il y aura beaucoup de monde chez François. Alors, c'est ce qui termine l'émission. Et également, nous allons faire relâche durant le temps des fêtes, ce qui veut dire que la semaine prochaine et dans 2 semaines, on ne sera pas là. Mais de retour en même temps que la réouverture de l'Abraham Martin le 5 janvier à 17 h. Alors, de tout simplement vous dire merci, messieurs. Merci, Alexandre, d'être passé. Merci également à Michel.
Ça me fait plaisir.
Et merci à Stéphanie Harvey, qui était notre invitée par téléphone aujourd'hui. Miss Harvey. François également, merci beaucoup.
Et merci à Eliane aussi, qui a fait le personnage de la fée au début.
Et oui, et tout simplement pour dire que nous félicitons également Guillaume, qui a gagné le jeu Kung Fu Panda. Et si jamais vous voulez réécouter notre émission, bien, c'est possible de le faire en accédant à notre site internet, le www.puissancemaximale.com.
Et j'aimerais ajouter que la première entrevue qu'on avait eue avec Miss Hervé est aussi disponible sur le site, donc vous pouvez aller vous retaper ça si ça vous tente.
Excellent, c'est possible de le faire aussi par lepetitpeuple.fr. On salue nos amis français qui nous écoutent à toutes les semaines. Alors, tout simplement le temps de vous dire une bonne semaine à tous et à toutes. It's D&D. Never kissed a lady before. Nope. Mm-hmm. Woo! All right. Take it home.